Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
De l'eau. Ras la casquette.
Ras le bol.
Mais ça fait des heureux.
Et oui, il y a toujours des heureux. Dans le monde animal, ça fait des heureux. Comme le castor hein, qui est revenu, qui est présent en Deux-Sèvres, dans nos cours d'eau. Alors je pourrais aussi vous parler aujourd'hui, donc avec toute cette flotte, hein, érosion des sols, avec toute la terre hein, que vous voyez dans l'eau qui circule. Je pourrais aussi vous parler politique agricole, puisqu'il y a aussi les manifestations, il y a des nouvelles lois qui veulent passer au Sénat notamment. Mais je voulais faire une chronique plus positive. Même si la cohabitation aujourd'hui entre le castor et l'homme n'est pas toujours évidente, je vous le rappellerai en fin de chronique, mais une chronique plus positive avec un animal qui est bon pour notre biodiversité et pour nos champs.
Un architecte, un hydrologue, mais aussi botaniste.
Oui.
Comment fait-il tout ça?
Alors, polyvalent. C'est pas les histoires du père castor.
Polyvalent, le castor.
On pourrait. Ouais, c'est un animal en fait qui est clé de voûte de la biodiversité en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, un castor va permettre une biodiversité bien plus riche que sa seule présence à lui. Le castor, en fait, comme beaucoup de rongeurs, aménage un abri pour l'hiver et un nid pour ses petits. Tout ce que fait le castor, en fait, c'est pour maintenir l'entrée de sa maison sous l'eau, qui devient donc inaccessible aux prédateurs. Il y a deux façons de le faire, en fait. Soit il creuse une galerie sur une berge dont l'entrée est sous l'eau, soit il construit une hutte en plein milieu de son barrage, dont l'entrée, en fait, est aussi sous l'eau à ce moment-là. Et en fait, tout ça, c'est le point de départ, notamment avec ces barrages qui servent donc à réguler hein, le niveau de l'eau pour ne pas inonder son abri. Deuxième fonction des barrages, c'est ne pas laisser l'entrée au-dessus du niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il va réguler le niveau de l'eau grâce à ce barrage. Le barrage sert aussi à étendre son territoire, en fait, à avoir plus d'eau présente, à inonder certains territoires, puisque le castor se déplace très mal sur Terre.
Il en faut de l'eau, parce que le castor, ça ne me paraît pas petit comme rongeur.
Ben non, c'est le deuxième plus gros
au
monde rongeur.
Il est costaud, le
castor. Et il pèse quand même de 15 à 30 kilos, hein, donc c'est quand même assez énorme.
Et il y a un gros delta aussi, quand même.
Entre 15 et 30, oui, entre les petits, ils disent en moyenne 20 kilos, en fait. 20 kilos, je ne sais pas si vous représentez par rapport à un rat qui est un rongeur aussi, mais ça fait quand même énorme.
C'est beaucoup plus gros qu'un ragonda.
Oui, voilà. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est beaucoup plus gros qu'un ragondin. Et ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est que s'il commence à manger par chez vous, il va faire du ménage, puisqu'il lui faut 4 kilos d'écorce tendre en moyenne par jour. Il peut aussi manger des feuilles de saule, par exemple. Mais ces 4 kilos d'écorce tendre, en fait, c'est du bois blanc, hein, comme on dit, comme le saule, le peuplier ou l'érable.
Et il mange tout cela avec ses 4 dents oranges.
Oui, orange. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué.
Je l'aurais dit jaune foncé, peut-être.
Ouais, elles sont orangées, ouais. Jaune foncé, si tu veux.
Dents mal lavées, tu vois.
Mais, c'est... Ouais, mais non, en fait, c'est plutôt... Faut pas y foutre les doigts.
Orangé.
C'est assez remarquable, en fait, puisque elles sont orangées. Pourquoi? Parce qu'en fait, son émail est renforcé avec du fer. Ses dents sont renforcées avec du fer et en fait, ça fait des véritables ciseaux à bois. C'est pour ça qu'il arrive à couper et à ronger les troncs, en fait, très clairement, et qu'il peut abattre ses arbres pour manger l'écorce. Et pourquoi est-ce qu'il abat les arbres? Il ne mange pas, en fait, hein, l'arbre en lui-même, mais il les abat pour manger l'écorce par terre, parce que le castor est très mauvais grimpeur.
Et sa fameuse queue plate?
Ah oui,
alors comme l'ornithorynque.
Sa queue plate, là, qui tape comme ça, c'est son couteau suisse, en fait. La queue plate, elle a trois usages. Une qu'on connaît peu, en fait, c'est que c'est une réserve de graisse. Comme la bosse des chameaux, en fait, c'est une réserve de graisse en période compliquée, là où il peut moins manger. Il s'en sert aussi pour la propulsion, donc avec ses pattes arrière qui, elles, sont palmées. Et autre usage, ça lui sert d'alerte. En cas de danger, en fait, il la fait tapoter dans l'eau. Et ça fait du bruit à ce moment-là pour alerter tout le monde. Et ce qu'on peut parler aussi, Jacqueline, c'est le fameux, la glande. La glande, c'est la glande qu'il a au niveau, enfin juste à côté de l'anus, qui produit le castor.
Tu n'osais pas le dire.
Ouais, voilà, je ne savais pas comment dire, parce qu'elle n'est pas très bien placée.
C'est pas un gros mot, Ludo.
Non, mais bon, disons que le castoreum, donc produit par cette glande, qui sert à marquer son territoire, entre autres, mais qui nous sert à nous, enfin même de moins en moins, mais c'est côté de l'anus, mais ça vous sert à quoi? Ça vous sert à tous ceux qui utilisent des parfums, ça sert au parfum, en fait. Et ça vous fait ces petites odeurs, apparemment, qui servent au niveau du cuir.
Ouais, bon, c'est pas très sexy, quand même, ton histoire.
Voilà. Mais cette castoreum, ça sert, voilà.
Et en quoi la biodiversité s'améliore avec le castor?
Ah oui, alors ça c'est un peu plus poétique, je dirais. En fait, il faut reprendre l'idée du barrage, puisque autour du barrage, la vie du castor se construit. Donc un barrage, ça introduit en fait une différenciation de vitesse du cours d'eau. Donc vous avez une partie avant le barrage, hein, l'eau est beaucoup plus vive, et en dessous du barrage, l'eau est plus calme, hein, forcément. Donc en fait, la faune et la flore seront différentes entre les deux milieux. Le barrage du castor, lui, va créer une inondation aussi, en étendant son milieu aquatique, puisque je vous le disais, le castor adore l'eau et évite de se déplacer sur la terre.
Il n'est bien que dans l'eau, c'est ce que tu veux
il
dire.
Il n'est bien que dans l'eau, même ça lui arrive de creuser des canaux en fait, qui servent d'autoroute en fait, plutôt que de se déplacer sur terre, sur les berges. Ensuite, les sédiments, avec ce barrage, des sédiments vont se déposer et ramener un peu de fertilité. L'eau qui se ralentit aussi favorisera donc les nappes phréatiques, puisque les rivières communiquent avec les nappes phréatiques. Une étude montre même en fait, que la qualité de l'eau est bien meilleure après le barrage du castor qu'en amont du barrage. Il y a aussi de nouveaux insectes qui arrivent, du coup, de nouveaux poissons et de nouvelles plantes également. Les arbres abattus, eux, le plus souvent, ce sont donc des arbres d'une dizaine de centimètres de diamètre, hein, c'est pas forcément que des gros arbres, feront de la lumière pour de nouvelles pousses ensuite. Et les arbres morts, eux, feront des abris pour d'autres bestioles.
Il faut couper les arbres donc, finalement, Ludo?
Oui, alors c'est la tentation, mais non, absolument pas. Il faut quand même penser hein, que normalement, le castor s'attaque, comme on dit, à des arbres aux écorces blanches. Hein. Donc en fait, ce sont des arbres, comme le saule, qui sont capables de faire des rejets rapidement. Il n'y a donc pas de souci écologique. Et si les castors s'en prennent par contre à des arbres qui ne font pas de rejets, comme les chênes ou les hêtres, ça, cela devient très nuisible et ça peut entraîner une catastrophe écologique. Et le castor pose aussi problème en cas de barrage hein, qui inonde les parcelles des agriculteurs.
C'est pas le moment, hein.
Non, c'est vraiment pas le moment, mais ce n'est même jamais le moment hein, d'inonder les parcelles où un agriculteur a semé, puisque forcément, ça pose des soucis économiques et techniques pour l'agriculteur. Et par exemple, en Saône-et-Loire, en fait, un éleveur a comparu devant la justice après plainte de l'OFB. L'OFB qui est un peu dans la tourmente avec les agriculteurs en ce moment, pour avoir détruit en fait un barrage de castors qui menaçait ses terres.
On ne peut pas terminer cette chronique, Ludo, sans parler de la cité des castors à Bressuire.
Eh oui, c'est un clin d'œil. Je trouvais ça plutôt sympathique, en fait.
Vers la rue des Cailloux, là-bas?
Oui, exactement. Rue des Cailloux, vers Camille Claudel, et puis rue du docteur Didier Bernard, pour ceux qui connaissent Bressuire. Enfin, vers la place Labatte et direction l'ancien hôpital, mieux vous situer. En fait, à l'époque, ça s'appelait, au lieu dit, le Grand Champ. Hein. Et c'était à la limite de la ville, avant que Bressuire s'agrandisse. Donc aujourd'hui, c'est bien à côté de Camille Claudel. Et cette cité est partie de l'idée, en fait, qu'en 1953, donc après-guerre, hein, il manquait des logements à Bressuire. Donc pour la cité des castors, ils seront 14 à se réunir sous forme associative, qu'on appelle donc les castors bressurés à l'époque, pour construire eux-mêmes. En fait, l'objectif, hein, c'est de construire eux-mêmes leur maison, et en le faisant tout à la main, et à des prix donc compétitifs. Le règlement intérieur disait même à l'époque « Aucun effort ne peut rien contre des faibles qui s'unissent ». Et en fait, pendant 4 ans, ces gens-là, tous les jours, même les jours de repos ou de congé, sont consacrés aux travaux. Donc, sauf Pâques, quand même, la Toussaint et Noël, donc 3 jours par an. Et l'association, en fait, est dissoute en 1962, après donc la construction des maisons. Mais les maisons des castors, elles, sont toujours là et en bon état encore aujourd'hui.
Et je vous conseille d'aller réécouter une chronique de Guy Marilène qui s'était intéressée justement aux maisons des castors à Bressuire. Et à ben réécouter voilà. Donc en podcast.
Exactement, tu peux dire le titre.
Chemin d'histoire
en bocage.
Ludo.
Exactement, avec Guy Marilène. Voilà.
Merci.
Allez, merci. Bonne journée. Ciao.